Moi, je suis l'évêque d'Aridax. Donc, nous accompagne le recteur de l'Académie de Buglos, le père Denis Cazot, qui est en même temps vicaire général, le vice-recteur, qui est donc le père Thomas Adeo, qui parlera tout à l'heure aussi de Buglos aujourd'hui, si je puis dire, et puis M. Vincent Guichenuy, qui est donc le responsable du comité de pilotage de ce 400e anniversaire de Notre-Dame de Buglos. Alors, dans un premier temps, moi, je vais vous donner le sens du jubilé, tout ça. Ensuite, je laisserai la parole au père Denis Cazot, qui redira un petit peu plus des choses sur l'histoire que vous avez sur le petit dossier qu'on a dû distribuer. Ensuite, au père M. Vincent Guichenuy prendra le relais pour la logistique, l'organisation des 400e. Et puis, le père Adeau sur la communauté qui est C-A-Z. Je ne sais jamais, c'est
AUX.
AUX. AUX. Voilà.
Sans le...
Oui, voilà.
Il y a beaucoup de casos dans le département. Voilà. Donc moi, je suis arrivé comme évêque il y a 2 ans, ici, et assez rapidement, justement, le père Cazot m'a dit, mais en 2020, nous fêterons donc le 400e anniversaire de la découverte de la statue de Notre-Dame de Buglos, donc en 1620. Voilà. Et donc on s'est dit, ça vaut le coup de faire quelque chose. Et on a donc décidé de faire ce qu'on appelle une année jubilaire. Alors, quand on dit jubilé, c'est-à-dire se réjouir. Voilà. Un petit peu, dans la Bible, on voit ça souvent. Il y a des années jubilaires, soit régulières, soit on jubile, parce qu'on a quelque chose d'important à fêter. Et donc, on s'est dit, ça vaut la peine de faire un jubilé pour les 400 ans de Notre-Dame de Buglos. Alors, on a fait un petit logo, on a fait un petit logo que vous avez là, qu'on met un petit peu sur toutes les affaires. Voilà. Et donc, ce jubilé, je vais l'ouvrir le dimanche 2 février. Alors, d'une part, c'est un dimanche. Alors, pour nous, les chrétiens, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc c'est un jour important. D'autre part, dans notre diocèse d'Air et d'Aix, cette année, j'ai proposé aux chrétiens de réfléchir justement sur le dimanche. Donc, c'est très bien qu'on puisse l'ouvrir un dimanche. Et ce jour-là, le 2 février, c'est la fête liturgique de la présentation de Jésus au Temple. Donc c'est une fête liée aussi à la Vierge Marie, puisque c'est après le 40 jours après la naissance de Jésus qu'on fête à Noël. Et c'est aussi la journée de la vigne sacrée, c'est-à-dire les religieux du diocèse qui se réuniront le matin.
Journée de la quoi ?
De la vigne consacrée. Ah, okay. Voilà. Donc les religieux et religieuses qui... Voilà. Et donc l'ouverture officielle, ce sera donc à 15h avec la messe. On commencera dehors parce qu'on fait une petite procession avec les cierges pour la chandeleur, parce que dans le langage courant, c'est la chandeleur.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Il y aura une présentation justement de la vie consacrée dans la vie du diocèse, et puis on ira à la basilique pour la messe, et puis à la fin de la messe, on aura donc l'ouverture officielle de cette année jubilaire, donc qui ouvre le 2 février, et qui sera conclue le dimanche 13 septembre. Parce qu'au mois de septembre, tous les ans, nous avons une semaine mariale ici, à Notre-Dame de Buglos. Et donc, on profite de cette semaine mariale et ce sera donc clôturé le dimanche 13 septembre. Donc, aussi un dimanche, même valeur que le dimanche du 2 février. Voilà. Alors, on va vous expliquer les grands moments, puis d'ailleurs, vous les avez aussi sur votre feuille. Moi, ce que je voulais dire, c'est 2 choses. La première, c'est l'importance de ce sanctuaire pour la vie du diocèse d'Air et d'Aix. On sent bien que les Landais sont attachés à ce sanctuaire Notre-Dame de Buglos et que ce soit l'occasion pour, je veux dire, tous les Landais, croyants ou pas croyants, parce que finalement c'est un sanctuaire qui appartient à tout le monde, que ce soit une occasion de découvrir ou de redécouvrir ce sanctuaire et notamment aussi de le faire découvrir aux jeunes générations. Parce que sont sans doute moins attachés à ce sanctuaire que les générations précédentes, et de redire la place que ce sanctuaire revêt pour la vie de notre diocèse. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi pour introduire, c'est le pape François insiste beaucoup justement sur l'importance d'une part des pèlerinages et d'autre part de la dévotion populaire, c'est-à-dire des gens qui viennent parce qu'il y a un lieu de pèlerinage. On voit bien qu'à Lourdes, il y a du monde qui passe, des gens de partout. Et ici, à Buglos aussi, il y a des gens qui passent, même dans la saison creuse, la nôtre. J'étais assez surpris, je suis venu samedi après-midi. Je venais pour un petit goûter à côté. Et puis en fait, il y avait plein de gens qui se promenaient. Alors c'est vrai qu'il faisait beau. Mais en même temps, tiens, je me suis dit, ils sont en train de se promener, ils ne font pas le goûter. Mais ce n'étaient pas du tout les gens qui étaient au goûter, c'était des gens qui venaient. Il y avait une famille qui était là, d'autres personnes, etc. Donc c'est vraiment un lieu important. Et donc ces lieux de pèlerinage et ces lieux de piété populaire sont des lieux aussi d'évangélisation. Voilà. Et donc nous, on veut s'insérer tout à fait dans ce processus. Voilà. Donc c'est pour ça que on veut vraiment donner une grande importance à ce jubilé. Et c'est pour ça qu'on vous a convoqué, je veux dire, un peu longtemps avant pour surtout face avec les fêtes. Donc on se dit c'est aussi à l'occasion des fêtes de Noël de dire aussi que on va jubiler à Noël, mais aussi on va jubiler dans le diocèse des rédacs toute cette année 2020, surtout entre donc le 2 février et le 13 septembre. Voilà. Alors peut-être maintenant laisser la parole au père Denis Cazot, donc il y a un peu de
il y aura beaucoup de temps, si jamais c'est trop compliqué.
Il y a des choses que vous avez aussi.
Il y a pas de truc dedans là.
En gros, c'est des documents. Donc, ce qui est à l'origine du jubilé, c'est la découverte de cette statue qui est ici. Là, hein. Donc, je remonte un peu l'histoire. Nous sommes en 1620. Il faut imaginer Buglos en train de démarrer. Hein. On n'a pas tout cet habitat d'aujourd'hui. Et là, un paysan voit un bœuf qui s'attarde sur une masse un petit peu dans les vases, dans le marais. Et il s'approche, il voit, il découvre une statue. Donc on va chercher les monsieur le curé du coin, les habitants, on extrait cette statue, et c'est une statue quand même magnifique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la finesse de... Donc d'où vient cette statue? Les historiens pensent, donc nous sommes en 1620, ils remontent un petit peu 50 ans en arrière. Et autour des années 1570, il y avait des guerres de religion. Donc, par exemple, en 1569, il y a la prise d'Orthès par le comte de Montgomery. Ce sont les Huguenots, les protestants. Et dans les différences entre les catholiques et les protestants, ils trouvent que parfois, trop donné d'importance au culte des saints et à la Vierge Marie, donc ils détruisent les statues de Marie, les reliques, les représentations de saints. Donc, il y a pas mal. C'est une région assez. Notre région, c'est assez troublée. Il y a pas mal de monuments qui sont ainsi abîmés. Donc on pense, hypothèse d'historien, que en 1570, au moment de ces événements, des chrétiens ont voulu mettre à l'abri cette statue. Donc où est-ce qu'on a été sûr de ne pas la trouver? C'était à Buglos. Dans le trou perdu, à l'époque, c'était... Buglos, c'est un nom de quartier. C'est pas un village, Buglos, c'est Saint-Vincent-de-Paul aujourd'hui. Autrefois, c'était le Pouilly, le village du Pouilly. Quelle est l'origine de cette statue? Donc, des études ont été faites par un conservateur du musée du Louvre, M. Pradel, ainsi qu'une spécialiste, Mme Beaulieu, de Paris aussi, qui est spécialiste des costumes. Et d'après ces études de spécialistes, il date... La statue du début des dernières années du XVe siècle. À quoi ils reconnaissent, moi je ne vais pas trop vous décrire, mais c'est le drapé de la robe, l'encolure, qui est en particulier qui était l'encolure de la cour d'Anne de Bretagne. Donc ça me permet de situer de façon assez précise la date de la création de la statue. Mais d'où vient cette statue dans un trou perdu comme ça? Donc, des historiens aussi qui ont fait des recherches pensent que retrouvent la trace d'un achat par l'évêque de Dax, qui s'appelle Arnaud de Boiry, B-O-Y-R-I-E, qui a été évêque de 1493 à 1503, qui aurait commandé deux statues identiques dans l'ouest de la France, justement, une pour la cathédrale de Dax et une pour l'église Saint-Capré de Pontonx. Une des hypothèses aussi, c'est que ce serait la statue de Saint-Capré de Pontonx qui aurait été cachée, près d'ici, hein, à 7 ou 8 km, qui aurait été cachée dans les marais de Buglos. Donc, voilà, pour la statue elle-même, le sanctuaire Donc, dès qu'on découvre la statue, monsieur le curé est de l'émoi, on le prévient à l'évêque de Dax. C'est quand même pas courant de trouver une si belle statue dans un marécage. Donc l'évêque se déplace et puis la trouve trop belle pour rester à Buglos. Et il pense là, on pense qu'il va la porter à l'église du Pouilly, justement. Donc on organise une charrette avec des bœufs. Alors légende ou tradition, ce qui, dans la tradition orale, ce qui se transmet de génération en génération, c'est que les bœufs auraient manifesté une résistance. Si vous visitez les vitraux, vous verrez, il y a un vitrail où on voit deux bœufs là, qui rechignent. Donc on dit qu'à Buglos, on a une place pour tout le monde, même les têtus ont place à Buglos. Donc l'évêque voit un signe et il dit, c'est pas la peine, la Vierge est de rester ici, c'est ici qu'on va construire un sanctuaire pour le diocèse. Et en 1622, le lundi de Pentecôte, le 16 mai 1622, il y aura le premier pèlerinage. Donc on vient à pied de Dax, de la cathédrale de Dax, jusqu'à Buglos. Tous les chrétiens du diocèse viennent. Une grande manifestation, donc le lundi de Pentecôte, 1622. Ce qui explique que, on en parlera sans doute tout à l'heure, qu'un des moments forts de l'année sera le lundi de Pentecôte, 1er juin, cette année, 2020. Assez vite, nous avons la trace dans les écrits du diocèse de miracles. Des gens qui viennent ici parce qu'ils ont eu des grâces, ils ont eu des guérisons, ils ont eu... Donc très vite, la réputation de Buglos se répand. Nous, aujourd'hui, on pense à Lourdes. Miracle, on pense à Lourdes. Mais Lourdes, c'est 1658. 1858. Donc, bien avant Lourdes, le Buglos était bien plus connu. Et on venait, on a des traces de pèlerinages de Bayonne, du Gers, de Bordeaux, du Lot-et-Garonne, enfin de la région, ouais, qui viennent ici se recueillir et puis prier Marie. Et il y a tellement de monde que l'évêque de l'époque fait appel aux pères lazaristes. Donc les pères lazaristes, comment vous expliquez, sont des religieux qui ont été fondés par Saint-Vincent de Paul, au berceau, ici, à 6 km, qui tiendront le sanctuaire ici et qui seront au service de l'accueil des pèlerins de 1706 jusqu'à la Révolution française. Donc pendant plus de 80 ans, ce sont eux qui animeront le pèlerinage. Puis il y aura aussi des prêtres du diocèse. À cause de l'afflux des pèlerins, donc il y a une équipe aussi de prêtres qu'on appellera des missionnaires diocésains qui s'installeront ici. On en parlera tout à l'heure. Dans toute cette résidence qui est là. Puis les chapelles successives qui se révèlent trop petites. Donc en 1850, on pose la première pierre de la basilique que vous voyez ici, qui sera inaugurée en 1855. Et là aussi, il y a une grande inauguration avec des évêques de toute la région, et ce sont les débuts du train. Donc on sait qu'il y a eu un train, on a rajouté des wagons pour le train de Dax à Bordeaux, et avec une station a été créée à Buglos, spéciale. Au service du pèlerinage.
Demandé par l'évêque, maintenant.
Voilà.
Si l'évêque demandait à la SNCF de ça. Devant chez lui, je pense que c'est
une station TGV ou ça. En 1866, on a un évêque qui s'appelle Monseigneur Epivant, E-P-I-V-E-N-T, qui obtient de Rome un privilège, c'est-à-dire.
Sur l'autre côté de la page, vous avez vu.
Ah, d'accord.
1866.
Ah, ok.
Donc il va obtenir un privilège du pape de l'époque, c'est que la Vierge soit couronnée. Alors on couronne une Vierge quand on reconnaît le rayonnement du sanctuaire sur la région. Donc si on veut honorer cette statue, il a signifié que c'est quand même un objet qui est important pour la piété chrétienne. Donc c'est en 1866, c'est une des grandes dates, le 9 septembre 1866. En 1876, arrive un évêque du nord de la France, Monseigneur Delannoy. Je ne sais pas si vous l'avez là-dessus aussi.
Oui, aussi, oui.
Vous Vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis. Donc on voit bien l'importance des carillons dans le Nord. Et donc lui, sans lui, sans carillon, dans ce plat pays des Landes, et donc il rêve d'installer un carillon. Et arrivent les premières cloches en 1894 jusqu'en 1901, où sera installé le gros bourdon de 2 tonnes. Et aujourd'hui, il y a 60 cloches. C'est vraiment une caractéristique de la région. C'est le seul carillon dans tous les coins, tout le sud-ouest, sans doute. Oui. 60 cloches. Bon, je n'insiste pas sur le système original. Il y a déjà eu des reportages là-dessus pour l'actionner les cloches. En 1966, centenaire du couronnement, c'est l'évêque en l'époque, c'est Mgr Bézac, B-E-Z-A-C, et il obtient un autre privilège de Rome, du Vatican, c'est cette Buglose, l'église de Buglose est reconnue comme basilique mineure. Donc il y a quelques églises qui sont déclarées basiliques. Vous en avez à Lourdes, vous en avez à Saint-Denis, sans doute à Paris, à Lisieux. C'est pas, il n'y en a pas des 1000 et des 100, des basiliques. Je crois qu'à Bayonne, il n'y en a pas, par exemple. Je n'ai pas un souvenir. Donc, c'est là aussi, le signe, dans une basilique, c'est désigné comme lieu vraiment important pour le ressourcement des chrétiens. 1966. Et c'est là qu'est construite, aménagée au moins, la chapelle des miracles actuelle, la grande, en forme de bergerie.
J'ai mis la photo.
Et nous voici donc en 2020, les 400 ans, où on va écrire une nouvelle page de cette longue histoire. Voilà. Alors, c'est ça, donc si j'avais mis une note sur le père Sestac, mais on y viendra peut-être à un autre moment.
Voilà, donc ça c'est l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
On parlera d'aujourd'hui avec les gens qui font vivre la maison. Maintenant, mais peut-être donner la parole à M. Guichenoui, qui nous dit un petit peu de tout ça. Si vous voulez, les choses se présentent.
Voilà, donc un programme s'imposait pour les festivités de ce 400e anniversaire, un programme ambitieux, un programme généreux. Voilà, plus d'un an que les équipes sont à pied d'œuvre pour penser, pour préparer ce programme. Et comme vous avez pu vous en rendre compte en arrivant, Buglose s'apprête à un renouveau, s'apprête à une renaissance, puisque le sanctuaire fait peau neuve aussi physiquement dans ses lieux, dans ses bâtiments. Et ceci est possible, je le disais, grâce aux chevilles ouvrières qui travaillent sur les... qui pensent toutes ces activités, toutes ces festivités, mais aussi grâce à des partenariats. Alors premièrement, il faut citer le partenariat avec le conseil départemental des Landes qui est propriétaire de la basilique. C'est une particularité, il possède la basilique ici. Et depuis des années, il suit l'entretien, il prodigue des soins à cet édifice. Il y a quelques années, on le remarque parce que c'est éblouissant, surtout quand il y a du soleil. Le clocher a été ravalé, la façade ouest qui est ici. Récemment, donc cette année, il y a eu une révision des ouvertures en raison du 400e anniversaire. Alors là, je ne parle que des travaux visibles, mais il y a un suivi sur bien d'autres points, notamment par exemple le beffroi. Le point principal sur lequel nous focalisons notre attention, et puis la raison d'être de ce sanctuaire, c'est la statue vénérable donc, du 15e siècle qui a été retrouvée et qui est classée comme objet au monument historique depuis 1908. Donc c'est vraiment une pièce remarquable au titre de l'art, mais aussi au titre de la vénération populaire. Alors, il y a une restauration qui est prévue très prochainement, voilà, qui est programmée depuis longtemps, en partenariat bien sûr avec le ministère de la Culture, les monuments historiques et le département. Et ce qui va se produire, donc, c'est un nettoyage, c'est une petite étude, c'est une première depuis 150 ans. C'est-à-dire que à part les observations dont a parlé le recteur, il n'y a pas eu de véritable nettoyage depuis 150 ans. Ensuite, il y a, bien sûr, à l'initiative du diocèse, un grand lot de travaux qui ont été entrepris, que ce soit dans les extérieurs, la chapelle des miracles, le parc, les accès, et bien sûr, ici même, voilà, cette grande maison des missionnaires, le monastère et tous les abords. Donc, des rafraîchissements. Le monastère a reçu de nouveaux enduits. La cour d'honneur a été restaurée. Le portail monumental aussi, que vous avez pu apercevoir, qui est remarquable. Et cet écrin, réhabilité, restauré, va accueillir de nombreux événements et des activités dédiées à tous les publics pour découvrir ces 400 ans, pour découvrir cette histoire, ces 400 ans du sanctuaire, ces 400 ans de pèlerinage, notamment au travers donc d'un accueil pour les personnes, pour le flux des pèlerins dont parlait Monseigneur, mais aussi pour les aspects culturels, notamment au travers d'une exposition qui va débuter dans cette année jubilaire, où on pourra véritablement connaître ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent un peu déjà, l'histoire de ce sanctuaire à travers 40 objets. Donc pour les 400 ans, 40 objets seront présentés, souvent inédits et un point de vue assez original. Sera présentée aussi une nouvelle production qui est un film qui retracera l'histoire de Buglose et son charisme, le charisme de ce lieu. Toujours au titre de toutes ces propositions, il y a au travers de commissions, on pourrait parler d'une commission bâtiment, il y a aussi à l'œuvre une commission histoire, art et culture, une commission communication, et bien il y aura un tout nouveau livret du pèlerin pour accueillir, pour connaître mieux le sanctuaire et ses aspects spirituels, mais aussi des feuillets pour guider les gens. Feuillets pour les adultes, feuillets aussi à destination des jeunes, des enfants, des petits-enfants, des ados. Et un parcours de visite culturelle sera installé dans la basilique pour avoir une approche plus fine, plus précise pour ceux qui le souhaitent, des lieux, des caractéristiques architecturales. Voilà. Je précise aussi que au sens culturel le plus large, le sanctuaire accueillera parmi les propositions le Festival des Abbayes pour son ouverture cette année, le vendredi 17 avril, pour manifester ses 400 ans, proposera un concert ici dans la basilique.
Pour l'aspect des travaux, tout ça, vous avez un deuxième petit dossier.
Voilà, pour plus de détails des travaux, vous pourrez consulter et puis peut-être aussi visiter. Parmi les temps forts, dont certains ont été évoqués, comme la grande ouverture le 2 février, avec un aspect très, très festif et mêlé à aussi la vie religieuse du diocèse, et il y aura aussi d'autres temps qui sont indiqués sur le dossier de presse, comme, je peux prendre dans l'ordre chronologique, une grande marche commémorative le 1er mai, commémorative de la marche évoquée par le recteur, la première marche de 1622 depuis Dax jusqu'à Buglose, donc ce sera le vendredi 1er mai 2020 de la cathédrale de Dax à la basilique de Buglose. Il y aura aussi au mois de mai l'aboutissement d'un partenariat très important avec la société de Borda, qui est la fameuse société historique dacquoise, landaise même, qui traite de tout le patrimoine des Landes. Ce partenariat a donné lieu à deux choses importantes. D'abord, un grand dictionnaire illustré de Buglose, qui est une riche documentation créée pour l'occasion spécialement, c'est-à-dire vraiment c'est un document inédit, qui bien sûr va réactualiser toutes les études historiques déjà faites, mais qui va proposer de nouvelles informations, de nouvelles, une iconographie aussi toute renouvelée, un document pour un large public, mais très sérieux toutefois. Et ce dictionnaire sera publié officiellement le samedi 16 mai, lors d'une journée d'études historiques coordonnée avec la Société de Borda, avec pas moins de 7 communications, une visite du sanctuaire, de la basilique, et audition du carillon. Une grande journée historique. Et puis, venons-en au point culminant du jubilé, la grande fête du jubilé, qui se déroulera, on l'a dit, le lundi 1er juin 2020, c'est-à-dire le jour de commémoration du 1er juin 1622, pardon, du lundi de Pentecôte 1622, qui est aussi une fête dédiée particulièrement dans l'Église universelle à Marie. Ça tombe très bien. Et ce jour-là, eh bien, on invite tous les Landais, et bien au-delà aussi, toute la région ecclésiastique, c'est-à-dire la province ecclésiastique, c'est-à-dire la région de Bordeaux, l'ancienne Aquitaine, à venir se joindre dans l'esprit des pèlerinages de toute la Gascogne qui ont toujours afflué à Buglose. Alors cette journée comporte un programme très attrayant. Après l'accueil, plusieurs propositions sont faites. Une proposition pour les enfants catéchisés, leur famille. Une proposition pour les ados, pour les collégiens. Une proposition tout public avec une conférence du père Xavier Manzano, qui est le directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille, qui donnera une conférence sur la piété populaire. Et ce jour-là sortira aussi, voilà, une belle proposition du diocèse, une bande dessinée créée tout spécialement pour le 400e anniversaire. Puis, évidemment, il y aura une grande liturgie, une grande célébration, la messe solennelle, voilà, où sont conviés tous les évêques de la province.
J'ai l'assurance d'avoir les évêques d'Agen, Périgueux, Bayonne, les évêques auxiliaires de Bordeaux, et puis comme l'archevêque de Bordeaux change, donc je fais toujours mettre sur son agenda, et donc j'attends la confirmation.
Donc une très grande fête.
Plus une invitation.
Et alors j'ai demandé si on pouvait avoir un délégué du pape ou un message du pape. Bon, j'attends aussi.
Peut-être le pape lui-même.
Ça sert à rien de marquer.
Et donc, voilà. Et cette journée, il faut le savoir, qui est donc très festive, très largement ouverte et commémorative aussi, sera placée sous le signe d'une journée gasconne, c'est-à-dire que, voilà, suite à cette matinée donc de prière, de réflexion, il y aura, après la messe, un déjeuner gascon qui sera servi par de nombreux bénévoles dans l'enceinte du sanctuaire. Suivi d'animations festives, de visites du site et de plusieurs autres activités ateliers. Voilà. Et la journée se conclura par des louanges vespérales des évêques, en quelque sorte, et une grande procession qui rejoindra, depuis la chapelle des miracles, la basilique, pour conclure.
Voilà. C'est un peu anecdotique, on va essayer de reconstituer l'attelage aussi, voilà. L'origine, avec le charret des bœufs ou des bœufs. Avec une statue aussi qu'on va amener le matin, chapelle des miracles, revenir sur le lieu où elle a été trouvée, on la ramènera.
On peut le dire, oui, on peut le dire.
Et puis on la ramènera le soir à sa place. Donc c'est vrai que c'est le but, c'est pas de faire pas qu'une journée pour les cathos du premier cercle, c'est que les
gens soient à tous,
soient à l'aise, une journée populaire.
Exactement. Voilà, alors au titre d'autres propositions, il y a un rayonnement dans tout le diocèse, dans toutes les Landes, de cet événement, c'est-à-dire qu'il y aura deux reproductions de la statue de Buglose, qui est dans la basilique, qui vont sillonner toutes les Landes chaque semaine, Donc il y a, selon le planning qui a été fait, chaque semaine de ce temps, du mois de février jusqu'au mois de septembre, pour que éventuellement les personnes qui ne pourront pas venir ou qui ne seraient pas bien informées puissent connaître.
Dans le diocèse, il y a 35 paroisses. Et on s'est aperçu pratiquement il y avait 35 semaines entre le 2 février et le 13 septembre. Donc c'est super. Finalement, on fait tourner deux statuts de Buglos pour que, je crois que c'est par quinzaine.
15 jours.
Voilà, les paroisses comme ça, les mouvements, les écoles, tout ce qui veulent.
Et à la suite de cela, bien sûr, tous les villages, toutes les paroisses sont invités à venir à Buglos régulièrement tout au long de l'année avec des propositions extrêmement variées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des venues tout à fait spontanées, mais aussi il y aura des journées dédiées, comme la journée des grands-parents, la journée des fiancés, la journée des motards, la journée des gens du voyage, la journée des Portugais, la journée des époux et pères de famille. Là, diverses propositions. Il y en a énormément, je ne peux pas les citer, les musiciens, les sportifs. Ceci est grené tout au long de l'année. Et on peut dire peut-être, on ne peut pas vous donner de date.
On a fait la demande.
Mais il y aura une messe télévisée, ce sera l'été 2020. Mais on ne peut pas préciser si ça se conclut, une messe télévisée. Voilà, et pour terminer, je peux évoquer, je ne sais pas si j'ai...
Il y a un cantique aussi.
Voilà, c'est ça. Un concours de composition qui a été lancé. Et donc, les candidatures sont...
Normalement, c'était jusqu'au 15.
Fixées, mais le concours est en train de préparer. Et courant janvier, la délibération sera prise et un cantique spécialement écrit pour le 400e anniversaire sera chanté pour la première fois le 2 février, lors de la messe d'ouverture.
Voilà. Alors, vous imaginez que tout ça, c'est du travail, de préparation, d'installation, etc. Et puis, vous avez bien vu qu'à la fois, on veut dans le sanctuaire se vivre des choses, mais aussi, on veut que dans le diocèse, les choses se vivent. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces vierges pèlerines qui tournent, et puis des rassemblements ici. Voilà. Et puis, on va terminer peut-être par la vie du sanctuaire actuellement, puisque on a eu la grâce d'accueillir une nouvelle communauté. Et je vais laisser parler celui qui est maintenant le responsable de la communauté, qui est le vice-directeur, et le curé de la paroisse Saint-Vincent-Notre-Dame, Thomas Adéo.
Alors, je tiens tout d'abord à remercier Monseigneur qui a fait confiance à la communauté, qui a accepté que nous soyons présents dans le diocèse. Alors, je voulais noter que la communauté était déjà présente dans ce diocèse depuis 2009. Et c'est le premier diocèse à accueillir notre communauté ici en Europe. Alors, donc, si aujourd'hui nous avons beaucoup de communautés en France et ailleurs, c'est parti d'ici, c'est parti des Landes.
Est-ce que sinon vous êtes originaire d'où?
La communauté a été créée en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas seul, nous sommes trois qui faisons communauté ici, à Buglos. Nous sommes tous originaires de la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés ici depuis le 1er septembre que nous avons commencé. Alors, pour nous, c'est un grand défi. On arrive et puis ça coïncide avec les 400 ans de Buglos. Alors, ça fait un peu plus de 4 mois, près de 4 mois que nous sommes là. Donc, on prend le temps d'observer, de voir, de mesurer l'ampleur de ce qui nous attend. Mais nous pensons qu'avec la grâce de Dieu et le soutien aussi du Père Denis, de Monseigneur, des conseils des uns et des autres, que nous pourrons vraiment relever ce défi. Et notre atout, c'est peut-être notre jeunesse. Notre jeunesse que nous allons essayer de mettre à la disposition du sanctuaire et nous donner le meilleur de nous-mêmes pour que vraiment nous puissions contribuer à faire rayonner à nouveau le sanctuaire de Biglose.
Et là, dans le sanctuaire, il y a aussi une communauté donc, de servantes de Marie, c'est indiqué là. Alors, les deux sœurs qui sont en photo, ce n'est pas une sœur actuelle. Mais... Et donc, c'est intéressant parce qu'elles sont liées à l'histoire du Biglose, puisque leur fondateur, comme c'est indiqué, là, qui s'appelle le père Sestac, qui était de Bayonne, et il voulait donc fonder une congrégation, tout ça, et il n'avait pas de sous, donc il est venu demander des sous à Biglose. Et il est reparti en disant, enfin, en ayant dans le cœur, je te donne mon esprit. Il ne demande que mon esprit. Voilà. Et du coup, ben, ça a débloqué des sous, mais autrement. Voilà, ça, c'est... voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous partager. Alors, s'il y a des questions, des choses en plus que vous voulez
dire. En tout, combien vous êtes à préparer tout ça en comptant tous les...
Il y a 5 commissions, donc il y a au moins un... Voilà, le comité de pilotage, c'est le responsable de chaque commission. Puis après, chaque commission, elle a, par exemple, celle histoire-culture, c'est en lien avec la société de Bourda, donc ça fait du monde qui joue, la commission communication, toute l'équipe de la com, les bénévoles, tout ça. La commission pastorale, c'est un prêtre du diocèse, le père Philippe Carrère, qui s'en occupe. Donc, on est autour de lui aussi d'autres personnes. La commission financière, c'est un monsieur qui a fait tout
ça. Activement, il y a une cinquantaine de personnes. Oui. Activement, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent autour de ça.
Hier soir, on avait la 12e réunion du comité. Le comité, on est comme une douzaine.
Okay. Oui, d'accord. Ça, c'est
une douzaine de personnes dans l'eau dure.
Puis après, plus on va arriver, plus on va avoir aussi besoin de bénévoles qui se mettent pour des choses ponctuelles. Ouais. Par exemple, on a un monsieur sécurité, on a l'hospitalité landaise qui va très certainement...
Oui, il y a la question de l'accueil des groupes qui vont venir aussi. Donc on recherche aussi des bénévoles du coup pour pouvoir alimenter ce lieu pendant toute l'année jubilaire, mais au-delà aussi.
C'est une condition sponsor aussi.
Mais c'est
vous imaginez qu'il y a aussi le budget derrière.
Et la commission travaux.
Et du coup, pour le budget, comment ça se passe? Il y a le conseil départemental.
Conseil départemental, comme la basilique lui appartient, c'est elle qui fait ses travaux de propriété.
D'accord, mais du coup, en plus des travaux, est-ce qu'ils aident là pour l'organisation de ça ou pas du tout?
Alors, le conseil départemental, par exemple, est partenaire de. La commission histoire pour la publication du livre, le dictionnaire illustré.
D'accord.
Voilà, pour le reste.
La commune aussi, le Jardin Saint-Paul, par exemple, le hall des sports.
D'accord.
Pour le reste, la commune est un part de Saint-Paul, est un partenaire incontournable.
Il y a de logistique.
Logistique fidèle.
Avec de laïcité aujourd'hui, c'est ça qui est assez lié à l'argent public.
Donc c'est pour ça qu'on fait un appel de fonds spécial pour financer les travaux de partenariat.
Donc voilà, la commune est un partenaire fidèle et.
Parce que ces travaux, de toute façon, un jour ou l'autre, il aurait fallu les faire. Donc on se dit, le 400e anniversaire, c'est vraiment l'occasion.
Voilà. Ensuite, il y a, nous avons un partenariat pour aussi des aspects logistiques, des aspects de publicité, des aspects culturels avec le Grand Dax et la ville de Dax, avec qui on travaille maintenant la main.
En général, tous les contacts qu'on a eus avec les élus, les instances... de la ville, de la commune, tout ça, sont attentifs à ce 400e anniversaire de ce lieu qui est quand même atypique pour les membres. Donc c'est ça aussi qui est intéressant.
Et la question de rayonnement culturel et touristique aussi.
Oui, c'est pour ça que les villes peuvent aussi participer sans basculer dans le...
Alors moi j'ai envoyé une lettre à tous les responsables diocésains de pèlerinage, puisque beaucoup viennent à Lourdes par le car, plus que par le train, quand ça roule. Et par exemple, le diocèse de Rennes, alors eux, c'est je ne sais plus combien, 1200 personnes,
1200,
voilà, donc vont s'arrêter en avril, retour de Lourdes. Bon, puis il y en aura d'autres comme ça, sans doute.
Oui, qu'ils incluent sur leur parcours.
Ah, c'est inclus, retour, oui, c'est sur le retour.
Une expression qui peut expliquer aussi Buglose, c'est que ça avait été employé par un de nos anciens évêques, Buglose, il disait c'est le cœur du diocèse. La tête est à Dax, la tête est ici, c'est l'évêque, mais le cœur est Il y a un peu de cœur à l'axe aussi quand même.
Oui. Et aussi un peu de tête à la puisqu'il y a bien mon blason qui est aussi sous la statue. De, comme il dit aussi,
d'accord. Ça veut dire que dans le cœur, il y a le sang qui arrive et le sang qui part.
D'accord.
Donc il y a tous les pèlerins qui viennent spontanément, pèlerinage organisé ou tout, ouais. Le tout venant des gens qui viennent. Et après, il y a le rayonnement de Buglos, les missionnaires, ils allaient dans tous les villages, il y a des monuments de mission au carrefour. Vous voyez des croix, des... Mm-hmm. C'est souvent des missionnaires de Buglos qui, au terme de plusieurs jours de mission, en souvenir, ont bâtissé un petit monument. Donc il y a ce côté du rayon, les gens qui viennent, et Buglos qui a mission de rayonner aussi, de nourrir la foi des chrétiens du diocèse.
Ce qui a été surprenant aussi, il me semble, c'est qu'on découvre jusqu'à aujourd'hui des statues de Notre-Dame de Buglos dans toutes les Landes.
Oui, il y en a beaucoup.
Ce qui est assez surprenant, ce qu'on s'imaginait pas, mais là on y fait un peu plus attention. Mais il y en a une à Pissos qui vient d'être restaurée. J'en ai vu une à Castets aussi. Enfin, il y en a partout. Et pas forcément des petites. Hein, parce que c'est des statues qui font.
Et là, des travaux ont commencé déjà.
La cour, là.
Oui. Tout ça.
Cour, espace d'exposition, la chapelle des miracles aussi en partie. Il reste encore quelques travaux d'accès, de voie, mais c'est de signalétique.
Et là, on en parlera sans doute une autre fois, parce que là, on voulait vraiment axer sur Buglos. Dans l'espace, ici, il y a l'ancienne maison de retraite des prêtres, qui s'appelle la maison Saint-Jean, qui a dû fermer, au profit d'une nouvelle EHPAD ouverte au berceau, récemment. Parce que, pareil, la maison de retraite au berceau était trop âgée. Et du coup, cette maison, qui appartient au diocèse, était vide. Et on a un couple qui a accepté de faire ce qu'on appelle de l'habitat partagé.
Ah oui, d'accord.
Pour l'instant, ils sont en train de... C'est encore plus tôt pour en parler parce que c'est pas. Ils sont en train de faire une association, un plan, et on espère.
Dans cette ancienne maison.
Voilà, on espère symboliquement poser une première pierre le 2 février, au moment de l'ouverture du jubilé.
D'accord. Ah oui, donc c'est en. Ah oui, c'est en plan.
C'est en cours, oui, voilà. Et pour l'instant, c'est.
Parce qu'elle a été. Du coup, c'est la rénovation complète ou elle.
Ah ben, on.
Transformation,
on va dire. Voilà.
Pas de chambre, un petit appartement.
Voilà. D'accord.
Okay. Voilà. 15 ou 16 appartements.
On espère que les premiers résidents pourront arriver début de l'été, fin du printemps.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour bien montrer que ça bouge et c'est important pour ce couple qui a l'esprit un peu à la Saint-Vincent-de-Paul, donc de ne pas être très loin du berceau de Saint-Vincent-de-Paul, et puis à côté de la basilique, donc aussi dans un sanctuaire, c'est important aussi. Voilà, donc maintenant on peut effectivement commencer à prendre des gâteaux, on va y avoir sans doute un petit peu à voir qui va aller. Et puis, ceux qui veulent interroger, surtout pour la radio, voilà. Et puis après, on peut faire une petite visite pour ceux qui ont du temps et de la basilique. Et un peu plus loin, jusqu'à la chapelle générale, si besoin.